nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinine, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce jeudi 2 mai 2024, le 13 Ordibehesht 1403 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez avec nous. L'Iran annonce des sanctions contre 7 personnes et 5 institutions américaines. L'Iran rappelle à l'UE qu'elle doit respecter ses forces armées conformément au droit international et la résistance intensifie ses attaques contre l'armée israélienne à Netzarim. C'était les principaux titres de l'actualité qu'on va maintenant vous développer. Le ministère des Affaires étrangères sanctionne 5 entités juridiques et 7 personnes physiques américaines en raison de leur implication dans les crimes commis par le régime israélien dans la bande de Gaza. Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique a annoncé dans un communiqué jeudi que le pays avait sanctionné plusieurs personnalités et entités aux États-Unis. Conformément à la loi sur la lutte contre les violations des droits de l'homme et les actions aventureuses et terroristes des États-Unis dans la région datant de 2017, en particulier les articles 4 et 5 de la loi mentionnée, le ministère des Affaires étrangères de la République islamique a imposé des sanctions aux personnes et institutions suivantes en relation avec leur soutien aux actes terroristes du régime Israël et leur violation flagrante des droits de l'homme contre le peuple palestinien et en particulier les habitants de la bande de Gaza. Les institutions suivantes seront soumises à des sanctions pour soutien et complicité dans les actes odieux du régime israélien contre les Palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza. L'entreprise Lockheed Martin en raison de son implication dans la fourniture d'armes au régime israélien. General Dynamics en raison de la fourniture de balles de 155 mm au régime israélien. La société Skydio en raison de la fourniture de drones à l'armée du régime israélien. La compagnie Chevron Corporation qui a aidé le régime israélien à exploiter des puits de gaz en Méditerranée orientale. Les revenus de cette exploitation sont utilisés par le régime pour lancer des offensives sur les territoires palestiniens, notamment dans la bande de Gaza. L'entreprise Caron, en raison de son rôle dans l'imposition par le département du Trésor des États-Unis de sanctions contre le Hamas, ainsi que de ses tentatives d'empêcher le Hamas et le djihad islamique d'accéder au réseau de transfert de crypto-monnaies sous prétexte de blanchiment d'argent. Les personnes physiques suivantes font également l'objet de sanctions pour soutien et complicité dans les actes odieux du régime israélien contre les Palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza. Jason Greenblatt, vice-président exécutif et directeur juridique de Donald Trump et de la Trump Organization, est son conseiller pour Israël. Michael Rubin, chercheur principal à l'American Enterprise Institute, etc. Compte tenu de ce qui précède, la République islamique d'Iran sanctionne les personnes et institutions mentionnées conformément à ses obligations et engagements en matière de droits de l'homme et dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et son financement, en particulier le terrorisme commis par les États-Unis. Sur la base des décisions prises par les autorités compétentes dans le pays, toutes les institutions de la République islamique d'Iran prendront les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces sanctions, c'est ce qu'a annoncé le ministère au terme du communiqué. Lors d'un appel téléphonique mercredi avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a demandé à l'Union européenne de respecter les forces armées du pays conformément au droit international. Le CGRI joue un rôle constructif dans l'établissement d'une sécurité durable dans la région et dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il soutenu. Le Parlement européen a adopté jeudi 25 avril une résolution condamnant les frappes massives de drones et de missiles de l'Iran contre le régime israélien par 357 voix contre 20 et appelé à l'imposition de sanctions supplémentaires contre les entités iraniennes. La résolution réitère également l'appel de longue date du Parlement européen à inclure le CGRI sous la liste européenne des organisations terroristes. Cela s'est produit alors que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont également annoncé qu'ils ciblaient les industries iraniennes des drones et des missiles en prenant des mesures contre les individus et les entreprises étroitement impliquées dans la production iranienne des avions sans pilote. Dans un communiqué publié samedi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a dénoncé les mesures coercitives prises par le trio contre plusieurs entités réelles et juridiques liées aux forces armées iraniennes. Il a souligné que de telles mesures ne pouvaient en aucun cas saper la détermination du gouvernement et de la nation iranienne. Plus loin dans ses propos, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a réitéré la nécessité de mettre fin le plus rapidement possible au génocide et aux crimes commis par Israël contre le peuple palestinien, en particulier à Gaza. Le premier diplomate iranien a déclaré que les Nations unies doivent jouer un véritable rôle à Gaza, tant au niveau régional qu'international, en prenant en compte les revendications légitimes des Palestiniens. On vous lisait aussi en titre, la résistance palestinienne a intensifié ses attaques contre la colonie de peuplement de Netzarim, établie par l'armée d'occupation israélienne dans le centre nord de la bande de Gaza. Les blessés ont été transférés par les hélicoptères de l'armée israélienne, selon les médias palestiniens. Les brigades Qassam, branche militaire du mouvement Hamas, ont pilonné mercredi à deux reprises les forces d'occupation à Netzarim avec des obus de mortier de gros calibre et le système de missiles à courte portée Rajoum de calibre 114 mm. Les médias des brigades Qassam ont diffusé des images qui montrent des combattants palestiniens frappaient les forces israéliennes avec des obus d'artillerie dans Netzarim. Dans la vidéo diffusée par Al-Qassam, un combattant a réaffirmé que les brigades continuent d'attaquer les forces d'occupation à Gaza et la résistance poursuivra. À leur tour, les brigades Al-Quds, branche militaire du djihad islamique, ont revendiqué le tir d'obus de mortier sur un quartier général de commandement et de contrôle israélien à proximité de l'hôpital de l'amitié turco-palestinienne à Gaza sur l'axe routier menant à Netzarim. Elles ont aussi ciblé une autre position militaire de l'occupation à proximité du quartier de Sheikh Ajlin, au sud-ouest de la ville de Gaza, près de la zone où les États-Unis d'Amérique établissent un port flottant. Destination États-Unis pour fermer le journal. La police américaine a recours au gaz lacrymogène et aux balles en caoutchouc alors que les manifestations anti-israéliennes secouent les campus universitaires. La police a utilisé des gaz lacrymogènes, tiré des balles en caoutchouc et procédé à de nouvelles arrestations alors que les manifestations anti-israéliennes prennent de l'ampleur sur les campus du pays en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza déchirés par la guerre. De plus en plus d'universités aux États-Unis se sont jointes au rassemblement de protestation contre la guerre génocidaire menée depuis des mois par le régime israélien contre les habitants du territoire palestinien assiégé. Mercredi, des manifestants anti-israéliens ont scandé des slogans en soutien au peuple de Gaza et brandi des drapeaux palestiniens à l'université Fordham de New York, tandis que la police anti-émeute a envahi le campus de l'université de Californie à Los Angeles, où de violents heurts ont été signalés. Des affrontements ont également éclaté mercredi à Loeb, en marge d'un rassemblement pro-palestinien, sous le campus de l'université de Californie à Los Angeles, UCLA, selon la police et des images retransmises par les chaînes de télévision locales. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le leader appelle à augmenter la pression sur Israël. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a appelé à intensifier la pression sur le régime israélien afin que la question des Palestiniens dans la bande de Gaza, assiégée, ne puisse pas être compromise. L'ayatollah Khamenei a prononcé un discours mercredi 1er mai devant un parterre d'enseignants et d'universitaires à l'occasion de la Journée nationale des enseignants. Aujourd'hui, la question de Gaza est au premier rang des problèmes mondiaux. Sur la scène internationale, les sionistes et leurs partisans américains et européens font tout ce qu'ils peuvent pour rayer la question de Gaza des priorités du monde, mais en vain, a-t-il déclaré. Il a évoqué les protestations pro-palestiniennes des étudiants des universités américaines et européennes comme suit. Les peuples sont devenus sensibles à la question de Gaza, car c'est la plus importante question du monde. Nous ne devons pas permettre que cette question soit soustraite à l'opinion publique mondiale et la pression doit augmenter de jour en jour sur le régime sioniste. Le leader de la révolution islamique s'est ensuite attardé sur la violence et la force excessive dont font preuve les policiers américains vis-à-vis des étudiants pro-palestiniens. Regardez comment les Américains et les instances compétentes du pays réagissent face à l'opposition verbale à Israël. Les étudiants des universités américaines n'ont rien vandalisé, n'ont pas appelé au vandalisme, n'ont tué personne, n'ont rien incendié, n'ont brisé aucune vitre. Mais c'est ainsi qu'ils sont traités, a-t-il déclaré. Ce que les gens voient dans la pratique témoigne de la complicité de l'Amérique dans ce crime horrible, dans ce péché impardonnable avec le régime israélien. Ils sont complices. Comment peut-on être optimiste à propos d'un tel système, d'un tel régime? Comment est-ce possible? Ou comment peut-on faire confiance à leurs paroles? La République islamique d'Iran avait raison d'être pessimiste envers les États-Unis, a-t-il renchéri. L'ayatollah Khamenei a souligné que la Palestine appartient à ses propriétaires originels et que les tentatives de normalisation ne calmeront pas la situation dans la région de l'Asie de l'Ouest. La Palestine doit retourner à ses propriétaires d'origine. La Palestine appartient au peuple palestinien composé de musulmans, de chrétiens et de juifs. La Palestine est pour eux et doit leur revenir. C'est ainsi que le problème de la région de l'Asie de l'Ouest sera résolu, a-t-il souligné. Certains imaginent qu'obliger les pays voisins à normaliser leurs liens avec le régime sioniste réglera le problème. Non, la réalité est qu'ils se trompent, a conclu le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. C'est un débat prometteur. Nous aurons des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure. Nous parlons bien sûr de la guerre génocidaire que mène le régime israélien à l'encontre des Palestiniens dans la bande de Gaza. Mais nous allons nous concentrer particulièrement sur les manifestations qui se déroulent dans les campus universitaires aux États-Unis et en Europe, mais surtout aux États-Unis, où presque 1000 personnes, et pour la plupart enfin, des étudiants, mais également des professeurs des universités, ont été arrêtés de manière très violente. Et c'est malheureux de dire que l'ONU, par exemple, observe un silence à l'égard de cette répression violente à l'encontre des étudiants aux États-Unis. Donc on voit très bien que le droit de l'homme n'existe pas dans ce pays qui prétend d'être défenseur de droits de l'homme. Alors les étudiants exigent que les entreprises et les sociétés qui ont un lien avec le régime israélien cessent donc leurs activités ou un rapport ou profitent de la guerre dans la bande de Gaza, cessent leurs activités avec des entreprises américaines, mais sans réponse, bien sûr, jusqu'ici. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Mme Aïssar Midani, intellectuelle et analyste politique syro-française. Bonjour, Aïssar Midani.
Bonjour à toute l'équipe et à tous vos messieurs Athènes, à votre invité.
Et justement, Maître Eli Hatam, également analyste politique et bien sûr expert des questions internationales. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Eliatam.
Bonjour et merci de votre invitation. Mes salutations à Madame Midani et à tous vos téléspectateurs.
Je sais que tous les deux vous êtes amis et j'espère que ça ne va pas vous empêcher de vous contredire, car il s'agit bien sûr d'un débat. Alors ma première question va s'adresser à Issar Midani qui est avec nous depuis la France. Alors bien sûr, nous parlons de cette politique de deux poids deux mesures que mènent les États-Unis à l'égard de la liberté d'expression. L'Iran critique de l'autre part le silence observé par l'ONU à l'égard de cette répression très violente à l'égard des professeurs et des étudiants dans les campus universitaires. Mais comment voyez-vous cette politique de deux poids deux mesures? Je vous prie, Issar Midani.
En fait, les États-Unis qui s'érigent toujours en donneur de leçons aux autres pays, je voudrais rappeler quand même qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations quelque part, ils commencent à dire qu'il faut quand même que l'État soit démissionne d'ailleurs, soit il n'a pas le droit de réprimer les étudiants, soit il n'a pas le droit de réprimer les manifestants, il n'a pas le droit de ceci, de cela. Et alors qu'en fait, là, on les voit réprimer avec une sauvagerie inouïe les étudiants, en fait, dans les universités américaines qui ont pour crime de soutenir justement le peuple palestinien contre un génocide qui se pratique depuis 7 mois maintenant, contre eux et avec aussi les moyens les plus modernes et les plus expérimentaux, je dirais, aussi bien ça va depuis les bombes à grand tonnage qui ont été déversées sur Gaza jusqu'au programme d'intelligence artificielle qui balaye aussi la majorité des terrains et qui tire sur tout ce qui passe, jusqu'à la violation des hôpitaux, la violation de tous les droits de l'homme qui sont décrétés comme droits inaliénables, en fait. Les hôpitaux, les écoles, les maisons individuelles et surtout l'agression contre les civils, contre les jeunes, contre tout le monde, y compris d'ailleurs contre les organisations internationales et contre les locaux des organisations internationales qui dépendent de l'ONU, comme l'UNRWA et comme l'Organisation de la cuisine mondiale là, qui aide. Donc, en fait, tout ceci, pour eux, ce n'est rien et il faut l'accepter. Pour les États-Unis, il faut l'accepter. Il faut aussi rappeler que les États-Unis sont complices dans ce génocide à part entière, puisque non seulement ils soutiennent Israël en armes et en pot aérien non interrompu depuis le 7 octobre jusqu'à maintenant, en munitions, en armes, en tout ce qu'il faut, etc., mais y compris le soutien par l'argent à leur économie qui s'écroule de ce fait hein, et qui s'écroule aussi du fait de la... de la solidarité de l'axe de la résistance avec les Palestiniens. Donc en fait là on voit à quelle énormité on s'expose là. Les deux poids deux mesures, c'est pas seulement deux poids deux mesures, c'est que vous êtes en droit de vous n'avez aucun droit de faire ce que je fais et vous n'avez aucun droit de nous on a tous les droits. Donc en fait c'est très très important de voir une sorte de dictature américaine aussi sur le monde et sur les autres pays et sur les instances internationales. Vous parliez du silence de l'ONU. Malheureusement, l'ONU, à chaque fois qu'elle avance un peu, et ça, je voudrais saluer quand même le secrétaire général jusqu'à maintenant, qui a aussi dénoncé le génocide et qui a aussi fait tout pour qu'il y ait des mesures, en fait, qui oblige Israël à arrêter, à cesser le feu, à arrêter ce génocide, mais qui ont été systématiquement bloqués par les États-Unis, par des vétos, en fait, et maintenant, ils n'osent même plus dire arrêter la répression contre les étudiants. Ils ne l'osent même pas. Donc, non seulement il se tait parce qu'il n'ose pas affirmer des choses contre les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même impensable pour tous les peuples du monde et tous les pays qui existent à l'ONU, qui acceptent cette dictature et qui acceptent ces deux poids deux mesures, en fait, hein, flagrant des États-Unis sur les pays du monde. Et de l'Occident aussi, il faut quand même dire, vous parliez de la France, exactement pareil. La France qui se dit pays des droits de l'homme. Ah, alors ça c'est, parlons-en, les droits de l'homme, quand ils s'attaquent aux parlementaires qui soutiennent la Palestine, qui s'attaquent à des candidats pour les élections européennes pour le soutien de la Palestine, et qui aussi s'attaquent aux étudiants, parce qu'ils soutiennent et ils exigent qu'il y ait un embargo contre Israël qui commet des armes génocidaires, qui commet des crimes de génocide qui ont été reconnus par la Cour internationale de justice, qui a décrété un certain nombre de sanctions et qui ne sont même pas appliquées. Et il faut dire quand même qu'il
oui, absolument.
Pour un cessez-le-feu immédiat aussi, qui a été bloqué aussi par les États-Unis.
Oui. Maître Elie Hatam, nous avons entendu les propos de Aïssa Armidani, bien sûr, on ne peut être que d'accord avec elle. Et à l'heure actuelle, ce qui est le plus normal dans le monde, à mon avis, c'est de crier sa colère à l'encontre de cette guerre génocidaire que mène le régime israélien à l'encontre donc des Palestiniens dans la bande de Gaza. Alors comment se fait-il qu'aux États-Unis, donc c'est difficile à répondre bien sûr, que les États-Unis décident de réprimer violemment les manifestants qui crient leur colère à l'égard d'une guerre génocidaire qui se déroule ailleurs dans leur pays. Donc comment on peut être déjà donc contre ça et comment expliquer cette politique de deux poids deux mesures qu'a évoqué Aïssa Armidani, je vous prie.
Oui, écoutez, ce n'est pas difficile parce qu'il faut voir les choses telles quelles. Aujourd'hui, il y a un mouvement étudiantin. Ce sont des étudiants des plus grandes universités américaines à qui on apprend, on enseigne les principes du droit international public et qui sont les principes qui sont fondés sur l'équité et sur ces notions, ce qu'on appelle le jusqu'au jeunes en droit international public. Autrement dit, ces étudiants sont en train de voir qu'il y a une contradiction sur le terrain. D'un côté, on leur apprend une théorie, et d'autre part, nous avons une pratique qui est complètement différente et opposée à cette théorie. On apprend que quand il y a des crimes contre l'humanité, ce sont des crimes qui sont les plus odieux. En particulier, ce qui se passe actuellement à Gaza, et nous savons que la Cour internationale de justice a statué d'une manière certes provisoire, mais sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la Convention qui est relative à la définition et à la répression du génocide, en ayant des doutes sur la situation, des doutes sur le génocide, autrement dit l'extermination de la population palestinienne. Comment voulez-vous que des étudiants en droit, des étudiants en relations internationales ou en sciences politiques puissent comprendre c'est qu'il n'y a aucune mesure qui n'a été prise par la société internationale relativement à cette crainte, relativement à ce crime contre l'humanité. Deuxièmement, comment se fait-il qu'on leur apprend que les Nations Unies ou les États-Unis quand même peuvent prendre des mesures de sanctions. Et nous l'avons vu sur le terrain, la distribution donc des sanctions de la part des États-Unis, les sanctions extraterritoriales, à l'encontre de certains pays, sous prétexte qu'ils causent un problème, ce qu'on appelle un acte internationalement illicite, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on l'a vu, une distribution contre l'Iran, or l'Iran n'a pas commis un acte internationalement illicite. Des sanctions contre l'Irak, des sanctions contre la Syrie et dernièrement des sanctions contre la Russie, alors que la Russie est intervenue pour arrêter le massacre des populations russophones qui sont en Ukraine et pour se défendre contre l'arrivée des troupes et de l'ingérence de la part de l'OTAN sur ses frontières. Et d'un autre côté, on raconte du n'importe quoi en ce qui concerne l'entité sioniste en disant qu'elle a le droit à sa légitime défense. Or, le droit à la légitime défense, selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies, ne s'applique que quand il s'agit d'un conflit entre deux États. Or, nous avons ici un pays, une population dont son pays, dont son territoire est occupé, a été pris par une entité qui a voulu s'imposer. C'est comme des squatteurs qui viennent chez vous, dans votre appartement, ils vous mettent dehors et ils s'érigent un droit et ils voient, parce qu'ils sont des copains avec tel policier ou avec telle gendarmerie, et puis donc ils s'érigent le droit de rester chez vous et donc en violation de toutes les règles. Donc vous avez un droit légitime à vous défendre vous-même, qui va à l'opposition de l'article 2. Or, le pays ou cette entité qui occupe ne peut pas se faire prévaloir de l'article 51 de la charte. Donc, toutes ces questions, et puis la question de savoir pourquoi les États-Unis, qui quand même distribuent ces sanctions, ne distribuent pas une seule sanction contre cette entité qui est son allié et qui ne respecte pas le droit international. Il faut rappeler qu'il y a plus de 65 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'ont pas été respectées par cette entité qui se dit un État et qui est reconnu en tant qu'État par les Nations Unies. Il y a 1142 résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies qui ne sont pas été appliquées par cette institution. Comment voulez-vous que ces jeunes à qui on inculque ces notions voit cette injustice internationale sans réagir, sans dire « mais attendez, mais vous nous apprenez quelque chose et vous appliquez le contraire ». Donc ce n'est pas directement un soutien simplement à la Palestine, mais c'est un soutien au droit international, à l'équité, à l'objectivité, à la logique du droit international et des relations internationales. Mais ce qui est frappant et ce qui est étonnant, c'est la position des Américains, autrement dit des autorités américaines, malgré le premier amendement de la Constitution qui donne une certaine liberté, beaucoup plus qu'en Europe, en particulier en France, où c'est un régime total, le régime est devenu totalement totalitaire. Aux États-Unis, en principe, on devait donner cette liberté d'expression. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a les lobbies sionistes pro-israéliens, en particulier l'Anti-Defamation League, qui pèse aujourd'hui sur la classe politique américaine, surtout à l'approche des élections. Et puis, on brandit toujours ce carton rouge en disant « oui, au loup, c'est de l'antisémitisme ». Si vous voulez, aujourd'hui, c'est l'argument très simple, très facile, utilisé par les sionistes et par les pro-israéliens pour lutter contre la révélation de la réalité qui est caché par les médias traditionnels, mais qui a été dévoilé par les réseaux sociaux, les images. Nous n'avons pas besoin d'un discours. Vous montrez des images, vous montrez des vidéos, et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui crée, si vous voulez, ce sentiment. Alors, il faut insister sur un point. Ah, ces manifestants, ces étudiants, c'est pas du tout parce qu'ils veulent appliquer le droit international, parce qu'ils sont étonnés de voir qu'il y a une grande contradiction entre la théorie du droit international et son application, mais c'est plutôt des revendications pro-palestiniennes, anti-israéliennes, donc antisémites. Mais les principaux organisateurs de ces manifestations sont de confession juive. Comment vous pouvez être juif et antisémite? C'est quelque chose qui est ahurissant. Deuxièmement, il faut dire que ces lobbies utilisent le mensonge, utilisent une sorte de propagande musclée et qui veulent vous démontrer que ce mur n'est pas blanc, il est noir, même s'il est blanc, vous êtes obligé de dire qu'il est de couleur noire. Et ils ont forcé quand même une grande partie des pays occidentaux à être soumis à cette propagande, on l'a vu. Certainement, comme Mme Midani l'a expliqué tout à l'heure, aussi, en particulier en France, où le poids du lobby sioniste est très important, mais surtout aussi, je dirais, ce jeu qui a été fait, qui a été préparé à l'avance pour subjuguer les esprits et les conduire à être soumis à cette politique, à cette idéologie mortifère qui est celle du sionisme, ou moi je dirais du judaïsme politique, qui me rappelle, en faisant la parallèle, les mêmes idées, la même façon d'agir de l'islam politique, tel que l'État islamique qui voulait imposer également un certain idéal, inspiré d'ailleurs du judaïsme politique et dont le sionisme fait partie.
Oui, merci. Aïssa Armidani, oui, justement, cette grande puissance donc, du lobby sioniste qu'a évoqué donc, Maître Ali Ratam, mais il faut tout de même espérer qu'une résistance, une force des alliés ou des gouvernements puissent empêcher ce lobby sioniste de faire tout ce qu'il veut. Donc, imaginez réprimer violemment donc, des manifestants, mener une guerre génocidaire avec un silence qui s'en suit.
Tout à fait. En fait, en plus que le silence, il y a le terrorisme intellectuel là, dont ils sont en train d'accuser, avec lequel, en fait, ils sont en train d'accuser n'importe qui s'oppose à, ou qui soutient la Palestine et qui s'oppose à Israël, d'antisémitisme. Et je crois que maintenant, les voiles tombent et les masques tombent, parce que jusqu'à présent, ils ont quand même assez étouffé les peuples, les populations européennes, surtout avec cet épouvantail de l'antisémitisme en conséquence du narratif de la Shoah qui a voulu exterminer les juifs de l'Europe, etc. Mais les premiers antisémites sont aussi ces États, je dirais, qui veulent absolument que les juifs soient regroupés dans une terre qui n'est pas qui ne leur appartient pas, qui n'appartient à personne. Ils ont réuni des juifs qui appartiennent aux Palestiniens, en fait, hein, depuis des siècles, et qui ont réuni des juifs de tous les pays, et en fait, pour un but colonial, c'est clairement un but colonialiste pour planter un État artificiel complètement dans le cœur des pays arabes d'un côté et dans le cœur de ces pays dont les frontières donnent sur les passages importants de l'eau, en fait, dans le monde. Et c'est aussi c'est un terrorisme caché, en fait, je dirais, de ces instances américaines et puis otaniennes, en fait, de l'OTAN, contre les peuples de la région, en créant un État qui n'a pas les composants d'un État, parce que pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait une continuité, une présence territoriale, il faut qu'il y ait un peuple homogène, il faut qu'il y ait un gouvernement. Or, il faut quand même voir que Israël a été créé avec des hordes terroristes qui sont le Haganah, le Shtern, Irgun, et ils ont été favorisés par le colonialisme britannique lorsqu'il avait mandat sur la Palestine. Donc depuis la promesse Balfour, on a vu il y a deux jours, en fait, les 100 ans de la promesse Balfour, en fait, traitée aux Nations Unies. Cette promesse qui est de donner un foyer national juif en Palestine aux juifs du monde, en fait, elle n'a absolument aucune consistance pour la création d'un État. On ne peut pas dire une religion, ça forme un peuple, et une religion, ça peut former un gouvernement ou un État. Et en fait, là, c'est vraiment absolument incroyable comment les structures internationales comme l'ONU a été phagocytée, je dirais, par ces pays impérialistes qui voulaient absolument cette entité nouvelle, cette entité, créée de toutes pièces, qui s'appelle Israël, qu'elle soit créée au sein justement de la région du Levant, après avoir disséqué la Grande Syrie en différents pays, en quatre pays, alors que on sait la Palestine, la Jordanie, le Liban et la Syrie, c'était un même pays en fait. Hein. Et c'était aussi, ils ont donné des morceaux à la Turquie, des morceaux l'Alexandrette, la Cilicie, ils ont été donnés à la Turquie. Mais c'est en fait, ils donnent ce qu'ils veulent de ce qu'ils n'ont pas, en fait, sous prétexte qu'ils étaient que c'était sous leur mandat.
Absolument.
Donc en fait, c'est le fait des pays coloniaux qui veulent continuer la colonisation de la région, qui détient quand même les plus grandes ressources du monde en énergie. Si on réunit tout ce que cette région a comme ressources, ça arrive à peut-être 70-75% des ressources mondiales en énergie. Et les passages des eaux, en fait, donc tous les passages importants, en fait, la mer Rouge, le Bab el-Mandeb, les détroits Hormuz, etc.,
oui.
où passent en fait tous les
Absolument.
Échanges
oui.
économiques mondiaux.
Tout à
Donc
fait.
En fait, c'est à travers cette force, cette volonté de domination qu'ils veulent absolument, qu'ils ont créé cet État pour semer non seulement diversion dans ces pays, mais aussi pour garder un pied dans la
Tout
région,
oui.
indépendamment malgré, je dirais, des mouvements de libération et d'indépendance des peuples.
Absolument.
Donc voilà.
Aïssar,
et
Aïssar,
là,
oui.
on voit clairement.
Absolument.
Ouais.
Aïssar Midani, analyste politique, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à Maître Eli Hatam d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Muhammad. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 38 à 46 du chapitre 51 du Noble Coran, la Sainte Sourate Az-Zariyat qui éparpille. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 38 à 40 de la Sainte Sourate Az-Zariyat. Puis nous vous en donnerons la traduction.
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
Il y a même un signe en Moïse quand nous l'envoyâmes avec une preuve évidente vers Pharaon. Mais celui-ci se détourna, confiant en sa puissance, et dit : c'est un magicien ou un possédé. Nous le saisîmes ainsi que ses troupes, puis les jetâmes dans les flots pour son comportement blâmable. Dans le programme précédent, il était question du châtiment du peuple pécheur de Lot. Ici, ces versets font référence au sort du Pharaon et des siens et disent « Au lieu d'aller vers les Israélites, le vénéré Moïse, béni soit-il, est allé vers le Pharaon dans un premier temps, parce qu'il avait soumis les Israélites à son règne oppressif. Le Pharaon persécutait les hommes et les femmes et en faisait ses esclaves. Le vénéré Moïse s'est d'abord rendu chez le Pharaon pour libérer le peuple israélite de l'oppression du Pharaon et a prouvé sa justesse en présentant des miracles, des preuves et une logique claire. Mais le Pharaon et son peuple ne sont pas soumis à la vérité. Ils ont traité le vénéré Moïse, béni soit-il, de magicien et l'ont accusé d'être fou. En fin de compte, la colère divine a frappé le Pharaon et les siens alors qu'ils n'avaient aucun moyen de s'en échapper. Ils se sont tous noyés dans le Nil et ont été blâmés par différents peuples et nations au cours de l'histoire. Ces versets du noble Coran nous apprennent que libérer les gens du règne des oppresseurs était l'un des objectifs les plus importants des messagers de Dieu. Les dirigeants corrompus assassinent les hommes de Dieu qui se soulèvent pour réformer les affaires de la société et portent des accusations injustes contre eux et les présentent comme des pervers, des magiciens ou des fous. Les grandes puissances, avec toutes leurs forces et capacités, sont très faibles et incapables de résister à la volonté de Dieu. Nous devons donc faire confiance au Seigneur et ne laisser aucune crainte à leur égard entrer dans nos cœurs. Voici maintenant les versets 41 et 42 de la sainte sourate Az-Zariyat qui éparpille.
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
De même pour les Hades, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur, n'épargnant rien sur son passage, sans le réduire en poussière. Le vénéré Houd, béni soit-il, était le prophète du peuple Ad. Ce peuple vivait dans le sud de la péninsule arabique. Les hommes Ad étaient physiquement forts et grands. Ils avaient une habileté particulière pour construire des bâtiments hauts et énormes au cœur des montagnes. Mais au lieu de suivre les messagers de Dieu, ils ont obéi aux dirigeants oppressifs et ont résisté à la vérité, jusqu'à ce que Dieu leur envoie un sévère châtiment. Une énorme rafale de vent a soufflé, qui a projeté ces personnes fortes comme de la paille et les a jetées au sol. Ces versets du noble Coran nous apprennent que le vent est une manifestation de la miséricorde divine dans le mouvement des nuages, la chute de la pluie et la croissance des plantes. Mais parfois la tempête devient une manifestation de la colère divine et elle provoque l'anéantissement des criminels. L'eau et le vent, bien qu'ils soient des phénomènes naturels, sont sous le commandement de Dieu et par sa volonté, ils noient et détruisent les oppresseurs. Voici enfin les versets 43 à 46 de la sourate 51 du Noble Coran.
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
De même pour les Thamoud, quand il leur fut dit, jouissez jusqu'à un certain temps. Ils défièrent le commandement de leur Seigneur. La foudre les saisit alors qu'ils regardaient. Ils ne purent ni se mettre debout, ni être secourus. De même pour le peuple de Noé auparavant, ils étaient des gens pervers. Le vénéré Saleh, béni soit-il, était le prophète du peuple Thamoud. Pour examiner la véracité de Saleh, son peuple lui a demandé un étrange miracle. Un chameau sortant de la montagne. Saleh leur dit, « Si cela est fait et que vous n'y croyez pas, vous périrez. » Mais ceux qui ne croyaient pas qu'un tel miracle serait possible de se réaliser ont insisté sur leur demande. Par la puissance divine, un énorme chameau est sorti de la montagne. Mais les habitants de Thamoud, au lieu d'admettre la vérité du message de Saleh, béni soit-il, l'ont nié et ont essayé de tuer le chameau. Après que le chameau a été tué, le vénéré Saleh, béni soit-il, leur a donné de la part de Dieu le Très-Haut 3 jours pour se repentir. Mais ils ne se sont pas repentis et sont tombés à terre avec un éclair venu du ciel, de sorte qu'ils n'ont pas pu se relever et demander de l'aide. Par ailleurs, malgré des années d'efforts pour guider son peuple, le vénéré Noé, béni soit-il, grand messager de Dieu, sauf que quelques-uns d'entre eux, personne n'a cru en lui. Son peuple insistait donc sur son incrédulité et ses actes indignes, jusqu'à ce qu'il a été finalement anéanti par le déluge, une énorme inondation. Ces versets du Noble Coran nous apprennent que la tradition divine consiste à donner du répit aux criminels, mais s'ils ne se repentent pas, ils seront punis dans ce monde et dans l'au-delà. Les peuples qui ne tirent pas de leçons du sort des peuples d'antan et ne se corrigent pas deviennent à leur tour une leçon pour la postérité. Tous les phénomènes naturels comme l'eau, le vent et la foudre peuvent être à l'origine de la colère divine et provoquer l'anéantissement de personnes criminelles et corrompues. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 51 du Noble Coran, la sainte sourate Az-Zariyat, qui éparpille. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Thank you.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.